Infaillible et infatigable milieu de terrain. Les supporters d'Al Nasser, le club qui a déboursé 23 millions d'euros pour l'Ivoirien, et ceux d'Al Ettifaq, où il était prêté depuis un an, n'auront sûrement pas le même avis. En 48 matchs disputés lors de son passage saoudien, Seko Fofana n'a inscrit que 4 buts et n'a jamais semblé en pleine possession de ses moyens, ne retrouvant son meilleur niveau que chez lui, en Côte d'Ivoire, et se sacre des éléphants lors de la CAN à domicile. Heureusement pour le lauréat du prix FOE 2022, le championnat saoudien n'est pas très suivi en France et il garde une belle cote de popularité en Ligue 1. Alors quel Seko Fofana verra-t-on à Rennes? Celui de Lens, conquérant et décisif, ou celui de la Saudi Pro League, discret et à court de forme? En tout cas, l'Ivoirien de 29 ans est impatient de faire ses débuts, dès ce vendredi, peut-être pour le déplacement des Rennais à Nice.
Autre transfert conclu, celui du Nigérian de Lyon, Gift Orban, en route pour Hoffenheim, 15e de Bundesliga. L'attaquant de 22 ans n'était plus retenu pour des matchs depuis plusieurs semaines. L'OL l'a vendu pour 12 millions d'euros.
Du tennis, Hans Jabeur de retour à la compétition au tournoi de Brisbane.
Oui, 3 mois et demi après avoir mis un terme à sa saison 2024 pour récupérer d'une blessure à l'épaule, la Tunisienne, 42e mondiale, disputera tout à l'heure un 8e de finale contre l'Arménienne Elina Avanesyan, classée 43e.
Et puis la star du judo, Teddy Riner, était de passage lui au Sénégal.
Oui, le triple champion olympique français en individuel a fini l'année en faisant un crochet par Dakar et plus précisément par les locaux du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. L'an prochain, il en a profité pour échanger avec les dirigeants du COJO sur le développement de la pratique du judo chez les jeunes Sénégalais. Des conseils toujours bienvenus, estime Baladiaye, le directeur des sports de Dakar 2026.
Nous sommes très contents de ces genres de visites parce que ce sont des champions qui ont marqué l'olympisme, parce que ça va inculquer des valeurs à des jeunes futurs champions en herbe, parce que comme vous le savez, en Dakar 2026, nous avons des athlètes très jeunes et qui sont en perspective de Los Angeles 2028. Et c'est une visite qui est venue à son heure, parce que avoir des champions comme Teddy Riner au Sénégal, parler du développement du judo au niveau local et parler de l'organisation des Jeux Olympiques de Dakar 2026, c'est quelque chose de fantastique avec Teddy Riner pour parler aussi sur des stratégies, comment faire pour que les jeunes judokas puissent en fait s'entraîner correctement, puissent performer sur le plan africain, sur le plan mondial et sur le plan des Jeux Olympiques. Et je pense qu'il va bientôt revenir au Sénégal pour des projets en vue des Jeux Olympiques de Dakar 2026.
Baladiaye avec Babacar Fall.
Et les sports avec vous, Christophe Diremzian. Merci, on vous retrouve toute la matinée sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les principaux titres de ce jeudi 2 janvier 2025. Une attaque ignoble, selon les mots hier de Joe Biden aux États-Unis. Il condamne l'attaque à la voiture bélier ayant frappé le quartier français de la Nouvelle-Orléans au moment des célébrations du Nouvel An. Un possible acte terroriste, selon le FBI, qui a fait au moins 15 morts et une trentaine de blessés. Les États-Unis encore et cet autre incident à Las Vegas. Un Cybertruck, un des pick-up de Tesla, a explosé devant l'hôtel Trump de la ville. Une personne est morte à l'intérieur du véhicule. 7 autres personnes ont été légèrement blessées. On fera le point sur ces affaires dans quelques minutes dans le journal de 7h, heure de Paris, avec notre correspondante Loubna Anakim. Dans l'actualité également, Israël qui menace d'intensifier encore ses frappes sur la bande de Gaza. Si le Hamas, je cite, ne permet pas prochainement la libération des otages israéliens, message envoyé par le ministre de la Défense, Israël Katz. Et puis la Corée du Sud, le président déchu Yoon Suk-yeol résiste encore aujourd'hui à son arrestation. Pour le 3e jour consécutif, les autorités veulent l'interroger sur sa volonté avortée d'imposer la loi martiale. Notre invité du jour, Arthur Banga, chercheur spécialiste des questions de défense à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après l'allocution pour les vœux de Nouvel An du président Alassane Ouattara qui a annoncé la rétrocession du camp militaire français d'Abidjan d'ici la fin du mois, le drapeau ivoirien flottera donc sur Port-Boué. La base sera rebaptisée Général Ouattara Thomas d'Aquin, du nom du premier chef d'état-major de l'armée du pays. Abidjan et Paris qui entretiennent une relation historique sur le plan de la défense, malgré une période particulièrement conflictuelle durant la présidence de Laurent Gbagbo. Arthur Banga avec Sidi Yansani.
Bonjour Arthur Banga.
Bonjour.
Le président Alassane Ouattara a donc annoncé la rétrocession du camp militaire français de Port-Boué. Alors sur le plan purement pratique, qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire d'abord qu'il y aurait une réduction considérable du nombre de militaires français en Côte d'Ivoire qui vont passer d'environ 400 à une centaine. et que finalement le camp sera commandé par l'armée ivoirienne durant cette période à partir de janvier. Ça sera donc clairement un camp désormais ivoirien.
Alors le chef de l'État ivoirien a tout de même précisé que cette rétrocession se fera dans les 30 prochains jours, hein, donc un délai très court. Est-ce que c'est réalisable selon vous ?
Oui, parce que ça a été préparé en amont. L'annonce a été officielle dans le discours du chef de l'État à la Nation, mais ce sont des questions qui sont débattues depuis pratiquement 2 ans. L'idée, c'est donc d'abandonner le principe de l'intervention pour se concentrer sur les questions de formation, d'entraînement et d'équipement.
C'est aussi une page qui se tourne dans la relation franco-ivoirienne. Le camp de Port-Boué a servi à l'opération Licorne de l'armée française qui a durablement marqué les Ivoiriens dans les années 2000. Quel bilan vous tirez de cette relation militaire entre les deux pays?
Oui, il y a un grand changement aujourd'hui, c'est que pour la première fois dans l'histoire militaire commune de ces deux pays, on perd la logique de l'intervention, en fait. C'est que l'intervention militaire française sur le territoire ivoirien, comme on a pu le voir en 2011 ou même en 2002, doit être quelque chose qu'on doit oublier. Cela dit, le bilan de la coopération militaire franco-ivoirienne est un bilan largement positif.
En quoi est-ce que ce bilan est positif? Quels aspects considérez-vous positifs?
D'abord, il a permis à la Côte d'Ivoire de garder une stabilité durant toute la période de guerre froide où les menaces soviétiques emportaient certains régimes, emportaient certains pays. Il ne faut pas l'oublier. Il a permis à la Côte d'Ivoire de mettre en place son armée et d'être performante à un certain moment de son histoire, aujourd'hui encore. Et en termes de faiblesse, je le dis, l'incapacité de l'armée ivoirienne à pouvoir réagir justement en 2002, où le fait que l'armée française, par cette idée d'intervention, se retrouve en première ligne. On l'a vu en 2002, en 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, en 2011. Ça, ce sont ces faiblesses de cette coopération. Et justement, on essaie aujourd'hui de se débarrasser de ces faiblesses pour se concentrer sur la force de la coopération militaire franco-ivoirienne, qui est une relation humaine, une vraie camaraderie militaire qui est née entre les militaires de ces deux pays, la montée en puissance de l'armement, qui est aussi une partie de cette coopération.
Après le Sénégal et le Tchad, c'est la troisième annonce d'un départ des forces françaises sur le sol africain pour le seul mois de décembre. Cela va dans le sens de la nouvelle philosophie militaire de Paris, hein, qui veut une présence moins visible, mais tout en poursuivant sa coopération militaire. Alors, comment cela va-t-il s'articuler selon vous?
On est dans cette nouvelle vision française, mais qui est une vision aussi qui a été poussée, il ne faut pas l'oublier, par les opinions publiques africaines, par même des militaires africains qui ont voulu plus d'indépendance, plus de liberté de manœuvre. Mais aujourd'hui, on s'inscrit dans cette nouvelle politique. Avec les cas ivoiriens, sénégalais et tchadiens, on voit justement les diverses formes qu'on peut avoir. Au Tchad, par exemple, on est beaucoup plus accroché à l'idée de l'intervention. Et donc, la non-intervention française, notamment face aux attaques terroristes que le Tchad a connues, a fait comprendre aux autorités que cette présence militaire devient inutile. Parce que justement, si elle était utile au Tchad, c'est parce que c'est le pays, justement, l'armée française est plus intervenue. Et donc, on est un pays où la logique d'intervention était au cœur de la coopération militaire. Au Sénégal, c'est plus la logique politique hein, qu'ont mené Ousmane Sonko et Diomaye Faye qui les emmène à vouloir zéro présence, donc quelque chose de beaucoup plus radical dans leur pensée, mais qui, par le processus démocratique qui a entraîné l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye, permet de construire quelque chose de façon plus progressive. En Côte d'Ivoire, on a une tradition d'ouverture avec la France, on est un pays où les autorités, à part peut-être l'intermède de Laurent Gbagbo, ont toujours bien jugé la coopération militaire avec la France, y compris Ouattara, d'ailleurs, s'il a pu accéder au pouvoir en 2011, après sa victoire politique, sa victoire diplomatique, il a fallu une victoire militaire qui a été poussée justement par l'intervention française. Donc, une différence de perception.
Et concernant cette articulation de l'armée française sur le continent, quel rôle l'Académie de lutte antiterroriste, qui est donc à Jacqueville, hein, pas loin d'Abidjan, quel rôle cette académie peut-elle jouer dans cette articulation?
C'est le modèle même souhaité. On va plus accentuer sur la formation opérationnelle, mais formation intellectuelle aussi, formation judiciaire. Et modèle qui est voulu aussi parce qu'il s'agit aussi de multilatéralisme. La France ne veut plus se retrouver nécessairement d'un bilatéralisme, quand il s'agit de coopération militaire ou même d'intervention militaire. Et voilà pourquoi, vous voyez, les exercices comme le Flintoff sont des exercices américains, se déroulent au sein de l'académie, et tout ça sous commandement ivoirien.
Merci Arthur Banga et bonne année.
C'est moi qui vous remercie et bonne année à tous vos auditeurs.
Arthur Banga avec Sidi Yansane, entretien retrouvé sur l'application RFI Pure Radio. ce sera sûrement le duel présidentiel le plus surveillé de l'année. À partir du 20 janvier, Donald Trump fera son retour à la Maison-Blanche et ses relations diplomatiques avec son homologue chinois Xi Jinping seront scrutées à la loupe, tout comme leur politique économique respective. Elles pourraient avoir des conséquences déterminantes sur les cours du pétrole, des céréales ou encore de certains métaux de base en 2025. Et pour pimenter le tout, le climat pourrait avoir son mot à dire. La chronique des matières premières avec Marie-Pierre Olfan.
Plus que jamais, prédire les prix des matières premières cette année revient à prévoir des choix politiques. Et les premiers sont ceux qui seront opérés par Donald Trump, avec pour commencer sa nouvelle politique douanière, en particulier sur les produits chinois. Si la Chine vend moins de biens manufacturés aux États-Unis, le marché des métaux de base qui entrent dans leur composition pourrait être impacté, tout comme les pays qui les produisent. Les marchés agricoles sont aussi au cœur de la nouvelle guerre commerciale annoncée par Donald Trump. Lors de sa dernière présidence, la hausse des taxes américaines sur les importations chinoises avait conduit la Chine à se détourner du soja américain. C'est encore la crainte aujourd'hui. L'empire du milieu pourrait également bouder le maïs américain et se fournir un peu plus au Brésil. Mais le destin du grain jaune sera probablement scellé surtout par la politique du nouveau maître de la Maison-Blanche sur les agrocarburants. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la production américaine est convertie en bioéthanol. Si le curseur bouge, c'est l'offre en maïs et son prix qui seront impactés. Sur les marchés du pétrole, c'est la politique énergétique de Donald Trump que l'on surveille. Son scepticisme vis-à-vis du changement climatique et sa volonté d'augmenter la production américaine de brut pourrait renforcer l'offre et donc faire baisser les prix. Une stratégie qui pourrait finir par mettre à mal également la cohésion des pays de l'OPEP+, qui s'efforcent depuis des mois de restreindre leur production pour éviter que les cours ne s'effondrent. Mais la politique ne fera pas tout. Le prix mondial des céréales sera aussi évidemment guidé par la météo. 2024 a été marqué par un retour de l'angoisse climatique sur les marchés, explique un expert. On peut citer les immenses dégâts sur la production de blé en France, premier exportateur européen, l'impact sur la récolte de café au Vietnam et au Brésil. C'est encore aujourd'hui la crainte d'une météo défavorable en Afrique de l'Ouest qui tire à nouveau les prix du cacao à la hausse.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. (Musique) 6h55 ici à Paris, bientôt le début d'RFI Matin. Avant cela, les rétrospectives des grands reportages continuent en ce début d'année sur RFI. Aujourd'hui, retour à Cuba qui traverse l'une des pires crises de son histoire. Tout vient à manquer, nourriture, essence, biens de consommation et services publics. Il y a 3 ans, les plus grosses manifestations depuis plusieurs décennies ont ébranlé le pays et elles ont été en partie portées par les artistes cubains. Mais dans un pays autoritaire où la police traque les dissidents, s'exposer publiquement peut mener droit à la prison. Extrait de ce grand reportage signé Nicolas Selnik.
Navi est rappeur. Il vit avec sa compagne Martadella dans un appartement dans un quartier périphérique de la Havane. Ils ont l'air fatigués. La veille, ils étaient invités à un événement en ville, mais les transports en commun fonctionnent mal, alors ils sont rentrés au milieu de la nuit. On prend un café et la discussion peut commencer.
Pour nous, la répression a commencé le 22 novembre 2020 lors de la manifestation du Parc Central. Ce jour-là, les artistes du mouvement San Isidro, qui étaient en grève de la faim, ont appelé à une manifestation et nous y avons été. Pour nous, ça a été une expérience amère. Il y a eu beaucoup de répression. Nous n'avons presque pas réussi à faire la manifestation. En tout, j'ai été détenu 3 fois. La sécurité de l'État, selon différents contextes politiques, etc., a beaucoup utilisé les détentions arbitraires pour fragmenter, menacer, empêcher que les activistes arrivent à un lieu déterminé, questionner, mettre la pression. Dans notre cas, d'activistes avec une conscience du travail que nous réalisons, nous savons que ça fonctionne ainsi. Nous savons que c'est un risque que l'on court, nous l'assumons.
La contestation politique de Navi passe principalement par la musique. Il a découvert très jeune la culture hip-hop, arrivé à Cuba dans les années 90.
No vengo de esclavos, vengo de esclavizados, hijos del sol. Puedo sentir el sabor que tu odio ha dejado, mas no ha borrado el legado de amor. A mi favor, la historia adquirió su valor, lejos del poder opresor. Vea en la tez de mi frente, evidentemente soy negro, no de color. Busco soluciones, no me victimizo, donde la palabra no la paralizo.
También hemos hecho discos.
Nous, on fait des petits clips musicaux pour la communauté, afin que les personnes comprennent mieux des processus politiques qui nécessitent une explication parfois complexe. Les gens n'ont pas le temps d'écouter le discours d'un politique qui parle pendant une heure parce qu'ils doivent travailler pour s'acheter du pain et régler leurs problèmes. Mais peut-être qu'en une minute de rap, je peux résumer le concept dont je parle pour que ça atteigne les citoyens.
Los enemigos de mis genes me acusan sin un testigo, mas siempre se revisan los bolsillos sin siquiera rozar conmigo. Los enemigos de mis genes la verdad te han escondido, pero mi melanina no asimila este niga, va a dormir tranquilo.
À Cuba, les artistes en situation critique. Un grand reportage de Nicolas Selnick. Une rediffusion à écouter à 12h10 et 20h40, heure de Paris, et sur l'ensemble de nos plateformes en ligne. L'actualité africaine revient dans une grosse demi-heure sur RFI avec le journal de Grégoire Morelli. Dans un instant, le début d'RFI Matin. C'est avec vous, Andréane Mellard. Bonjour, Andréane.
Bonjour, Nemo. Bonjour à toutes et à tous. RFI Matin, bienvenue à vous. On est ensemble jusqu'à 9h. Notre tour du monde de l'actualité comme chaque jour au programme Invité, Chronique, Reportage. Ce matin, on va parler de la Côte d'Ivoire, d'Haïti, également le pays où l'année s'est terminée comme elle a commencé, dans la violence des gangs armés. Rendez-vous à 7h20 tout à l'heure. Également à suivre ce matin le sport, la presse et dans une minute le journal à la une. Les États-Unis et cette attaque à la voiture Bélier menée à la Nouvelle-Orléans. Le soir du Nouvel An, nous appellerons Loubna Anaki. Restez avec nous.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
conseil de spécialistes dans votre recherche d'emploi. Comment valoriser vos diplômes? Savoir parler de votre expérience professionnelle et de vos compétences dans un monde du travail en pleine mutation. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU sur RFI.